Et du coup, déjà peut-être parler rapidement du kiosque,
Alors,
où c'est, qu'est-ce que c'est
ça existe depuis donc 7 ans, je dirais.
Ouais.
C'est donc un infokiosque. Alors, qu'est-ce qu'un infokiosque? Un infokiosque, c'est un endroit où on trouve des brochures à prix libre, des bouquins pas chers.
Pas
Voilà,
cher,
à pas
voilà.
cher. Après, j'ai pas, faut pas en dire trop. De la musique, des graines, des affiches, des petits conseils, et tout ça se trouve aux 3 rue Escoussière Arnaud Bernard. Je dis bien Escoussière Arnaud Bernard, il y a plusieurs rues Escoussière à Toulouse,
Ouais.
vu que ça voulait dire les remparts. Alors, ça se trouve donc derrière l'école du Nord, si vous voulez, entre du côté d'Arnaud Bernard, entre le métro Jeanne d'Arc et le métro Compense.
Compense, ouais.
Et ce kiosque, cet info-kiosque est ouvert désormais, et depuis l'an dernier, les lundis et les vendredis. Il y a des permanences de 17h à 20h tous les lundis et tous les vendredis. Et généralement, un lundi sur deux, mais on va voir, ça peut même être plus, on fait des soirées, soit de présentation d'ouvrages, soit de discutes autour de certains thèmes, soit de cinéma. Voilà.
Ok. Et
Que
donc, du
dire
coup, juste
d'autre?
pour revenir sur le fait que tu dises que c'est un infokiosque, en fait, moi j'y suis allé quelques fois. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a des brochures, il y a pas mal de bouquins,
Des revues,
il y a des
effectivement.
revues
Ouais.
aussi, ouais, des fanzines, enfin, il y a pas mal de trucs.
Bah, en gros, c'est on travaille. Enfin, on travaille.
C'est quoi la diff, en fait, entre un infokiosque et une librairie, grosso modo, pour faire rapide,
Ah bah
déjà?
nous, on se paye pas.
Déjà,
Déjà,
voilà,
on
ok.
fait pas de bénéf. Et ensuite, on a le choix de distribuer, alors gratuitement ou à prix libre, un certain nombre de revues, grâce à, en particulier à une coordination d'infokiosques qui existe en France et qui se les fait passer par des sites internet.
Ok,
Donc, hop,
ouais.
il n'y a plus qu'à imprimer. Sinon, on bosse avec des éditeurs, en général des petites maisons d'édition. Non, c'est pas en général, c'est même en totalité avec des petites maisons d'édition qui sont soit, je dirais de sensibilité libertaire, soit locale, tout
Ok.
simplement. Parce que là, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un livre, par exemple, d'Anacharsis. Anacharsis, c'est une maison d'édition qui est à Toulouse, qui a son siège rue Bayard. On bosse avec les fondeurs de briques, par exemple, qui sont dans le Tarn. On bosse avec donc des éditeurs avec qui on a qui nous fournissent donc la matière, quoi. On a également, comment dire, ce que vous trouverez pas dans une librairie, c'est un bibliothroque. Alors, dit comme ça se multiplie de plus en plus dans nos villes. Ça fait très bobo, mais nous, ça fait des années qu'on le fait. Il y a
Ouais.
des rayons entiers où voilà quoi, il y a qu'à se servir. Il y a des bouquins que des gens amènent et que des gens prennent.
Ok.
Ça peut toujours servir à sortir de devant Internet là, deux
Ouais.
minutes. Voilà quoi. Et donc, bon an, mal an, va peut-être falloir s'occuper aussi le 3 rue Escoussière. C'est au premier étage parce que c'est dans une maison des associations qui est
Ouais.
municipale.
Ça, on peut
Alors,
peut-être en parler un peu parce que là, justement, il y a peut-être non ou pas forcément.
c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais comme la municipalité va récupérer ses bijoux de famille et qu'en particulier, ils ont, comment dire,
Et que le kiosque est un des bijoux.
Ouais, enfin nous on n'est pas le plus gros cara, hein. Franchement, du côté de la Bourse du Travail, je crois que ça commence à flipper sévère. Donc nous, à côté d'eux,
C'est
on est des tout
clair,
petits.
c'est
Voilà
clair.
pourquoi nous sommes, comment dire, prudents. Voilà.
Bon, ça marche. Bon, alors, du coup, venons-en peut-être au programme du kiosque, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui sont prévus là.
Voilà, donc programme de mars-avril, on fait un programme pour 2 mois. Donc, lundi dernier c'est passé, ça c'était le 16 mars, mais j'en reparlerai parce on a entamé un cycle de films qui s'appelle Cinéma et Résistance. Pourquoi il s'appelle Cinéma et Résistance? Parce que si on l'appelait Cinéma et Lutte Armée, on serait taxé d'apologie de terrorisme. Et comme n'importe qui maintenant, n'importe quel gamin, n'importe quel ivrogne, n'importe quel excité se fait traîner devant les tribunaux pour apologie de terrorisme depuis que tout le monde est Charlie, et ben on s'est dit qu'on passerait bien. Que le cinéma, alors soit le cinéma de fiction, soit le documentaire, s'était intéressé au fait de résister de manière pas pacifique. Et pas pour forcément y cracher dessus. D'où certains films. Mais je reviendrai au fur et à mesure de la programmation.
Ouais, ça marche.
Pour le premier film, lundi, c'était État de siège donc de Costa Gavras, qui était un film de fiction, mais qui partait d'une histoire qui était arrivée en Uruguay en 70, où un groupe de lutte armée, Tupamaros, avait enlevé un consul du Brésil, un employé de l'ambassade américaine, qui était censé être là pour aider au développement. Pour aider les pauvres pays du tiers-monde, mais qui en fait était là pour aider, donner des techniques de torture et de contre-insurrection à la police uruguayenne. Voilà, ça c'était pour lundi dernier. Donc allons vers le futur. Lundi 23 mars, oh c'est lundi prochain, à 20h30, il y aura une rencontre, une discussion avec une des revues qu'on trouve au kiosque, c'est la revue Z. Donc je Je vais préciser ce que c'est que Z.
Ouais, bien
Z,
sûr.
c'est une grosse revue. Ça doit faire ses 200 pages, facile. Ça paraît, en gros, deux, trois fois par an. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est tous les 6 mois, mais peut-être il y a des années où il y en a eu trois qui ont paru. Et alors, il y a donc des dossiers, comme dans toute revue, mais surtout, ils vont, l'équipe de la revue, qui sont, alors ça dépend, 8-15 personnes, vont se placer dans un lieu, dans une ville, dans une région, voire même dans un pays, parce qu'ils avaient fait un spécial Grèce, et ils vont creuser ce qui se passe autour de cette ville, de cette région. Ils ont fait sur Marseille, ils ont fait sur Amiens, ils ont fait au Kurdistan, ils ont fait sur la Grèce. Le dernier numéro, c'était sur Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, qui est une banlieue fort conflictuelle. Et alors là, figurez-vous que les gens de Z sont en ville, parce qu'ils font une revue, la future revue sera sur Toulouse et ses environs.
Très bien.
Donc, lundi 23, ils seront là pour présenter le fonctionnement de la revue, le parti pris des méthodes choisies pour traiter tous les sujets. Donc, comme je le disais, ils s'immergent dans la ville. Et ils ont déjà deux axes préalablement dégagés. Toulouse, ville de technosciences, n'est-ce pas? Alors, voilà quoi, d'où c'est Airbus,
C'est
c'est
ça.
l'informatique, c'est
EADS, voilà.
l'armement, l'armement, l'armement. D'ailleurs, il y a un petit livre à prix libre qui s'appelle Toulouse Nécropole, que je vous conseille, sur toutes les industries, sur tout le bordel militaro-industriel toulousain.
C'est assez exhaustif, quoi. Ils font la liste de toutes les entreprises, quoi. Enfin, c'est même
c'est
carrément
même,
exhaustif.
C'est même un peu des furieux qu'on fait ça.
Ouais,
donc voilà,
pas mal, ouais.
Le côté techno-Toulouse, alors dans lequel il y avait, mais bon, ça a changé aussi avec la nouvelle mairie, il y avait par exemple des festivals à but culturel, mais qui servaient un peu de cheval de Troie aussi, à rentrer les nanotechnologies dans le quotidien, etc. Ça, c'est Toulouse. Et d'autre part, ils vont aussi axer une
d'autres
partie
axes,
de leur
ouais.
journal sur, sur les événements à la ZAD du Testé, qui sont
forcément
loin d'être terminés, puisque dans la région toulousaine, c'est ce qui a mis un peu la ville en émoi ces derniers mois. Et ça dure depuis des années. Donc, par contre, l'équipe qui sera là le 23, l'équipe de Z est ouverte à toutes les suggestions. Elle cherche des contacts. Donc, si vous avez des choses à sortir sur la région, je ne sais pas, moi, ça peut être des histoires de. Enfin, il y en a plein, quoi. Des histoires de squat. Papy raconte le rock'n'roll dans les années 70. ou des choses encore plus rock'n'roll. Ou la lutte antinucléaire. Ou je ne sais. Enfin, il s'est passé plein, plein de choses dans cette ville qui est aussi, je ne sais pas, moi, en exil, un lieu d'exil de l'Espagne. Et de prolongement de toutes les luttes qui ont eu lieu en Espagne. Enfin voilà, si vous avez envie de causer avec des jeunes gens, non, plus ou moins jeunes, sympathiques, qui font la revue Z, ça sera lundi 23 mars à 20h30. Voilà, ils seront là pour en discuter
au
kiosque.
Voilà.
Ça, c'était pour le 23 mars. Alors, le 6 avril, c'est pas mal non plus. C'est. Je m'excuse d'avance pour mon accent britannique. Gazé to Gazé, a stone's throw away.
Mais qu'est-ce on n'a rien compris.
Alors, il y a 2 ans, ça part d'une histoire. Il y a deux ans, ça se passe à Istanbul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le gouvernement turc qui dit on va rénover une mosquée en centre commercial et construire une caserne, et hop, on vire un parc, un des parcs qui reste dans le centre-ville.
Si.
C'est le parc Gezi. Et je rappelle qu'Istanbul, c'est quand même la plus grosse ville d'Europe, si on considère qu'une moitié est en Europe, une moitié est en Asie, mais quand
c'est
même.
Ça.
Et puis ça a pété, les habitants se sont réunis, ont lutté contre la police, ont monté des barricades, et dans un de ces rares espaces verts qui restait dans la mégalopole, le parc Gezi, tout le monde était présent. Donc ça allait des étudiants modérés à des groupes révolutionnaires clandestins qui sont interdits en Turquie et qui se retrouvaient là, des gens qui sortaient des bidonvilles d'Istanbul, etc.
Ouais, il y avait un petit peu de tout hein, quand même, il y avait aussi des moins résistants qui avaient juste envie de voir leurs espaces verts. Quoi.
Voilà, il y avait même des fachos nationalistes turcs qui venaient là, enfin, ça a été une expérience qui a duré pas des mois, qui a été très 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 sévèrement réprimée. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs morts, que la révolte de Gezi, elle s'est étendue à la capitale, à Ankara. Elle s'est étendue à Smyrne, elle s'est étendue à plein d'autres villes turques, et ça a duré, et ce qui s'est produit à ce moment-là, la Turquie emporte encore des traces. Et alors, qu'est-ce que c'est Stone's Throwaway? C'est la mémoire d'une pierre qui vole. Voilà, c'est ça, comme ça que va s'appeler ce film. Et alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un film de Rose de Monet. Rose de Monet, c'est un turc, donc c'est un film turc sur le sujet. C'est pas un film de fiction, c'est un film de quelqu'un qui était au parc Gezi et qui sera là. Et qui passe au kiosque pour nous en parler. Donc, comme je crois qu'il n'y a jamais eu de soirée autour de ce qui s'est passé à Gezi Park, comme on dit en anglais, donc au parc Gezi à Istanbul, Voilà une occasion de se renseigner. Et puis, je pense que c'est pas mal d'aller discuter avec des copains turcs.
Bah,
Parce
bien
qu'ils
sûr,
ont
c'est
beaucoup,
clair.
beaucoup de choses à nous apprendre de ce qui se passe là-bas.
Ok, donc ça, c'est rendez-vous, c'est
Lundi 6
6
avril,
avril.
toujours 20h30 le lundi, donc après la perm.
Ok.
Ça, alors voilà, ça c'est le 23 mars, le 6 avril. Après, il se passe un événement tragique, c'est les vacances scolaires.
Oh.
Donc, non, mais il y a plein de gens qui se barrent de Toulouse, donc on
c'est
met un
vrai.
peu en veilleuse. Et ça nous ramène au 20 avril, donc à après les vacances. Alors, le 20 avril, il y aura la présentation d'un guide en présence de ses auteurs. Alors, c'est un guide, c'est un pavé. Ça aussi, on peut le lancer sur les forces de l'ordre. C'est un gros, gros livre qui s'appelle Le guide d'autodéfense numérique.
Ah, on en a parlé vite fait dans le magazine il y a quand il était sorti en version, mais bon, très très rapidement. Franchement, c'est vraiment un guide. Alors après, c'est vrai que c'est un pavé.
C'est un pavé et c'est pas réservé aux geeks, par
Non,
contre.
non, pas du tout. C'est pas réservé aux geeks. C'est assez accessible et franchement, c'est vraiment très instructif et bien tourné avec des trucs pratiques.
En tout
et
cas,
tout.
Ça décortique tout l'outil informatique et ça apprend, comment dire, ça met en relief ce qu'on pourrait appeler, comment dire, l'absence d'intimité, c'est-à-dire tout le flicage auquel la traçabilité auquel on se soumet avec ça et comment on peut y prendre garde. Moi, je peux déjà vous dire un secret, n'allez jamais sur Internet et
comme ça vous serez tranquille.
Comme ça vous serez peinard. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est un petit guide qui a été édité par les éditions Time Party qui vaut pas cher du tout. Merde, je me rappelle plus le prix là, mais je crois que ça doit tourner autour de 10 euros.
Mais de toute façon, Time Party, ils publient tous leurs ouvrages, ils sont en copyleft et donc du coup, ils sont trouvables sur Internet. Ils ont notamment publié Catherine Baker en mode copyleft.
Tout à fait.
Voilà quoi.
Après, c'est toujours bien d'avoir un truc dans sa bibli,
c'est
si
sûr.
Vous avez, et puis c'est de pouvoir le.
Ça fait ça donne un petit peu d'argent à des maisons d'édition.
Et en plus, comme il est gros, je sais pas, vous pouvez vous en servir pour caler les meubles si ça.
Ouais, c'est ça. Ou comme tu disais, en cas de manifestation, bon,
voilà,
ça peut toujours servir.
Vous le mettez au congélo et. Donc, c'est le guide d'autodéfense numérique. Alors, ça sera avec les gens et de Time Party et les auteurs du guide. Donc, ce qui veut dire que non seulement ils expliqueront leur démarche, mais qu'en plus, si vous avez des questions pratiques, parce que Ctrl-Alt-Shift, bordel, et après, je fais quoi ? Et ben, vous pouvez leur demander ça sur place. Voilà, ça sera le 20 avril. Alors, je vais peut-être dire un mot du programme à venir,
ouais.
Qui n'est pas encore fixé, parce que je pense qu'il doit y avoir une réunion même ce soir, même, au kiosque. Alors, il y aura pas mal de films à projeter, puisqu'il y a le. Alors, je sais plus, tu vas me dire, toi, si on dit le clim ou la clim ?
Ouais, plutôt là, quoi. Mais
plutôt la clim, ok.
On s'en fout un peu, je crois.
Donc, voilà, je sais qu'on va passer des films pour la clim. Alors, je peux pas encore dire, il faut qu'on en cause en réussite, s'il y a moyen de débloquer des week-ends ou si ça se fera le lundi soir. Voilà.
Ouais, non, il y a un cycle de projection qui va être mis en place par la clim là. C'est pas encore complètement
sur l'immigration,
figé.
Quoi, ouais.
C'est sur l'immigration. On va essayer de faire venir à chaque fois les réalisateurs. Il y a notamment le film L'Aventure de Grégory Lassalle, dont Grégory Lassalle, il avait fait un bouquin justement qui était paru aux éditions Non-Lieu, si je dis pas de conneries, petite maison d'édition parisienne. Et du coup, il avait fait un bouquin et un film sur des migrants qui traversaient la frontière gréco-turque justement. Ou turco-grec, ça dépend dans quel sens on la prend.
Et
lui, il les a suivis, quoi.
Et avant, il avait fait le docu sur les migrants qui partaient du Guatemala
vers
les États-Unis.
Il a fait plein de trucs, ce mec.
Il a vachement bossé au Guatemala.
D'ailleurs, il est en Argentine en ce moment. Enfin, bon, bref. Et donc, il y a ce film-là. Il y en aura d'autres aussi. On va essayer d'en faire une par mois. Et donc, du coup, peut-être qu'on s'associera avec le kiosque si c'est possible. Enfin, voilà, quoi.
You welcome. Simplement, patience, faut juste qu'on se voit pour dire.
Bah voilà, mais en fait, c'est l'occasion de se capter pendant la chronique de la clim à la radio.
Voilà, vous êtes notre. Sinon, il y a un autre film vachement intéressant. Alors, ça, c'est un collectif qui s'appelle Nawak, que je ne connaissais pas, et qui nous présente, qui présentera un film qui s'appelle Racine. Alors, Racine, R-A-2-S-I-N-E, c'est du créole.
Ok.
Ce passé qui ne passe pas. C'est sur l'immigration forcée. On n'en sort pas, mais alors là, on reste dans le même pays. Enfin.
Ça dépend. Non,
en fait, c'est comment on a pris des gens de La Réunion, en particulier des mômes, et comment on les a installés en France pour repeupler les territoires ruraux. Ça s'est fait dans les années 60, et on les a enlevés à leur famille.
Ah,
et ça passe pas. Et en particulier pour décoller dans des régions aussi tropicales que le Limousin, la Creuse, la Corrèze, etc. Donc il y en a qui ont été même de ces gamins qui ont été bien reçus dans des familles sympas, tout ça.
Ouais, voilà.
Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a aussi eu des sacrés salopards.
Donc,
voilà. Et donc là, le collectif Nawak nous avait, sollicité alors que le programme était déjà clos. Donc il n'y a pas de problème. Prochainement, avril-mai, on passera aussi ce film qui s'appelle Racine, ce passé qui ne se passe pas.
Et juste sur le collectif Nawak, ils sont toulousains ? Ouais,
Il y en a qui sont de Toulouse.
D'accord, ok,
Voilà.
ça marche. Donc, ouais, ils sont un peu dans le coin.
Et d'autre part, si on a le temps de continuer le cycle cinéma et résistance, le prochain film, ça sera un film sur le Weather Underground. Vous voyez tout de suite de quoi je parle,
Bien
non?
sûr.
Alors, ce qu'on appelait aussi les Weathermen. Alors, il était une fois aux États-Unis des jeunes gens de la gauche radicale, et pourtant ils étaient à la fac, qui s'appelait les Students for Democracy, c'est-à-dire les étudiants pour la démocratie. Alors, c'était des jeunes gens de gauche. Mais alors, ils se sont retrouvés dans une époque où, comment dire, il y avait une guerre au Vietnam qui a fait
Ah.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y avait des Noirs qui se battaient pour les droits civiques, puis des Black Panthers. Il y avait l'American Indian Movement, donc les indigènes, enfin les natifs, les autochtones,
Ouais.
donc
Les
les Indiens,
natifs.
quoi, voilà.
Ouais, les natifs, les
Les
natifs
Indiens,
plutôt
quoi,
que
qui
les...
avaient
Ouais.
monté aussi des organisations, qui avaient occupé Alcatraz,
C'est
etc.
ça.
Et donc le SDS, ils vont mener des campagnes auprès de ces mouvements, que ce soit auprès des mouvements chicanos, auprès des mouvements indiens, auprès des mouvements noirs aux États-Unis. Ils vont être célèbres parce qu'ils vont s'affronter à la police, et pas qu'un peu, lors de la fameuse convention démocrate de Chicago en 69. Ils vont appeler à l'insurrection, et voilà-t-il pas qu'ils vont avoir un congrès, le SDS, où ils vont scissionner, et toute une partie de ces gens-là vont rentrer dans la clandestinité et vont monter le groupe Weather Underground.
Ok.
Et ils vont, jusqu'aux années 76, mener des sabotages aux États-Unis, au centre de l'impérialisme. Alors, ils vont bousiller des locaux, enfin, des locaux centraux, hein, des administrations centrales, de l'administration pénitentiaire. Ils vont bousiller des bases militaires. Ils vont contre le Vietnam. Ils vont attaquer des trucs de police, mais sans jamais faire le moindre blessé, en faisant gaffe. Et ils ne se feront à peu près jamais gauler jusqu'à la fin des années 70. Et d'ailleurs, il y a plusieurs membres du Weather Underground, de ces Weathermen, donc, qui vont finir par négocier leur reddition dans les années 80, qui vont faire un tour en prison. Il y en a d'autres dont on dit qu'ils sont encore en cavale, et puis il y en a un des plus connus, qui s'appelle David Gilbert, qui lui va continuer à lutter armé avec un groupe qui est très peu connu, qui s'appelle la Black Liberation Army, donc l'armée de libération noire, qui est un groupe noir anarchiste,
Ok.
et qui va tomber suite à un braquage avec des membres de ce groupe, et lui il est libérable en 2031.
Voilà,
Donc
c'est pas
il n'est
demain
pas
quoi.
tout jeune, mais donc voilà, c'est un documentaire sur le Weather Underground qu'on aimerait passer là. Et
Et du
alors,
coup, il n'y a pas de date encore de fixer
non, il n'y
quoi?
a pas de date,
Ce
voilà,
sera.
ni pour les films de la Clim, ni pour
Ouais.
Racine, ni pour les. Mais c'est pour
Mais bon,
donner quelques
voilà.
projets.
Ouais.
Alors pourquoi il s'appelait le Weather Underground, ou pourquoi il s'appelait le Weatherman? Parce qu'il y avait une chanson de Bob Dylan qui s'appelait Homesick Subterranean Blues, dans lequel il y avait les vers, il y a pas besoin de, dans lequel il était dit, il n'y a pas besoin de Monsieur Météo pour savoir d'où souffle le vent. Et c'était en référence à cette chanson. Qu'on s'écoute?
Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in the trench coat, badge out, laid off. Says he got a bad cough, I wanna get it paid off. Look out, kid, something you did, God knows when. But you're doing it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend, man in the coonskin cap. And the big pen wants $11 bills, and you only got 10. Maggie comes feet, foot, face, put a black suit, talking with the heat, put plants in the bed, but the phone's tapping anyway. Maggie says the minute say they must bust an early May, orders from the DA. Look out, kid, you're gonna get hit. Walk on tiptoes, don't try no dose, better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Well, hang around an inkwell, ring bell hard to tell if anything's gonna sell. Try hard, get barred, get back, right rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, gonna get hit. Users, cheaters, six-time losers, hang around the theaters, grill by the whirlpool, looking for a new foe. Don't follow leaders, watch your pocket meters. On, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success. Please her, please him, buy gifts. Don't steal, don't lift. 20 years of school and I'll push you on a day shift. Look out, kid, keep it all head.
jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to avoid the scandals. I wanna be a bum, you better chew gum. Well, the pump don't work, cause the vandals took the handle.
En fait, je suis même pas sûr que c'était Dylan qui chantait là sur ce coup-là. J'ai pas reconnu sa voix.
Mais en tout cas,
c'est bien le morceau de Dylan, mais ah, ben ça me prendra pendant. J'ai pris ça sur mon ordi. Je suis pas sûr que j'ai pris la bonne version, enfin la version originale, mais c'est pas grave. Dans ce cas, c'est une reprise. Ok. Du coup, on va continuer en présentant quelques-unes des petites choses qui se trouvent au kiosque. Alors
ouais, bien
là,
sûr,
aujourd'hui,
ouais,
ça va être plutôt des nouveautés. Bah, je parlais de revues. Alors, il y a un estimable fanzine parisien. Non, pardon, pas parisien. Il est d'Ivry. Il est d'Ivry sur scène, ce fanzine, voilà, qui s'appelle Chéri Bibi. Alors Chéri Bibi, c'est un joli nom. On vous rappelle que c'est le nom d'un bagnard de Gaston Leroux, d'un feuilleton des années du début du siècle, quoi. Et Chéri Bibi, c'est un fanzine, mais alors c'est un fanzine, voilà, tiré en quadriphonie, en quadrichromie, je veux dire, qui fait ses 92 pages et qui est très dur à lire pour les myopes. Et d'accord, même pour les presbytes. C'est écrit tout petit et c'est bourré d'infos. Donc voilà, le numéro 9 venant de paraître et il est arrivé au kiosque et il coûte 3 euros. Et ben, on va un peu détailler ce qu'il y a dedans.
Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr.
Déjà, eux, c'est. Comment dire, c'est contre-culture à éducation populaire. Alors, éducation populaire, c'est un mot qu'on fout à toutes les sauces, mais là, vous allez voir le genre. C'est un numéro spécial police menotte notre prison, avec un dossier central là-dessus, on va y revenir. Mais il y a trois interviews aussi, alors trois interviews de gens assez rares, même très très rares.
Okay.
Il y en a un, pour cause qu'il est rare, il est mort. Il y a une interview de Gainsbourg, qui a été faite en 79. Alors Gainsbourg, il faisait le couillon à la télévision, mais il donnait assez peu d'interviews. Et là, c'est l'interview qu'un gars avait fait à l'époque et qu'il a filé aux gens qui font le Chéri Bibi. Et c'est l'interview qui parle de la France, parce que on se rappelle pas qu'en 1979, Gainsbourg avait fait un disque de reggae. Qui a eu un certain succès, voire même un succès certain, et qu'il avait foutu la Marseillaise en reggae, mm-hmm, en faisant aux armes, etc.
Ouais.
Et ça avait provoqué un scandale majeur. Il y avait eu des articles incendiaires, tout ça, mais il y avait eu tout plein d'anciens combattants d'Algérie, de vieux parachutistes, qui étaient venus foutre le bordel dans les concerts à Gainsbourg,
ouais,
qui leur avait fait chanter la Marseillaise, du coup, au garde à vous, etc. Donc il s'explique sur tout ça, à l'époque, okay, c'est un document. Voilà.
Donc cette interview là, elle avait jamais.
Elle n'était jamais parue nulle part.
Jamais.
Elle traînait sur des cassettes qui ont, okay, été récupérées par Chéri Bibi.
Eh ben, à découvrir du coup dans leur numéro.
Voilà,
là,
4 pages d'interview de Gainsbourg, 79. Et alors 8 pages d'interview de quelqu'un qui n'en donne jamais non plus normalement, mais qui avait reçu le premier numéro de Chéri Bibi quand le fanzine s'était monté et qui avait dit la presse française, je veux voir personne sur Chéri Bibi. Cette personne, c'est Djelo Biafra. Alors Djelo Biafra, c'est un activiste nord-américain de Californie qui a été le chanteur des Dead Kennedys, peut-être un des groupes punk les plus fameux des années 80, et qui depuis a joué avec un paquet de gens, qui a monté le fanzine lui-même Maximum Rock'n'Roll, qui a monté le label Alternative Tentacles, qui est mouillé dans pas mal de mouvements contestataires américains, et là qui a remonté un groupe avec des grosses pointures du hardcore, qui s'appelle l'école, je vais la faire en français, son groupe s'appelle l'école de médecine de Guantanamo. Voilà, c'est c'est clair.
Satirique comme il faut.
Voilà, et il y a 8 pages d'interview de Djelo Biafra qui revient un peu sur son parcours, sa carrière, c'est une discussion en bâton rompu. Et ben moi en tout cas c'est la première fois, à part il y a un site sur Djelo Biafra dans lequel il s'exprime, mais c'est la première fois que je vois une interview de Djelo dans un fanzine. Voilà, il y a une autre interview, on va y revenir, c'est d'une semi-légende du reggae, je dirais, c'est la chanteuse Dawn Penn, qu'on écoutera tout à l'heure peut-être, mais qui voilà, qui a fait la choriste derrière pas mal de gars en Jamaïque, c'est une Jamaïcaine, et qui s'est barrée de tout ce showbiz, tout ce cirque, et qui s'explique pourquoi elle en a eu marre à un moment donné de ce showbiz, de ce cirque, après avoir fait des chansons ô combien immortelles. Ça, c'est pour le côté interview contre culture. Il y a aussi des dossiers dans le Chéri Bibi. Alors, il y a un dossier sur le juge Judge Dredd. Le juge Dredd, alors là, ça n'a rien à voir avec le reggae, parce qu'il y a un chanteur de reggae qui s'appelle comme ça. Non, c'est la BD anglaise des années 70. Judge Dredd, c'est un mec qui est flic, juge et bourreau à la fois, qui est une brutasse et qui flingue à tout va. Et c'est une BD qui a une critique féroce de l'intervention de la police et de la justice, en fait, sous des dehors un peu le contraire, quoi. Donc il y a toute l'histoire de ce personnage. Il y a également, ce que je trouve la page, il y a une revue qui s'appelle Le pervers pépère du peuple. Donc, là c'est consacré à un chanteur aussi qu'on a pas mal oublié, qui s'appelait Jean Jonas, qui est mort au début des années 80, qui était un chanteur français qui avait eu un succès tout relatif, avec en particulier une chanson qui s'appelait « T'es qu'un flic de Paris » à la fin des années 60. Et donc, il y a l'histoire de Jean Jonas, chanteur anarchiste. Ouais, 67, c'est ça, « T'es qu'un flic de Paris ». Et il y a toute l'histoire de ce type. Donc, comment est-il arrivé à survivre alors que les télés ne l'ont jamais passé, les radios ne l'ont jamais passé de ça? Eh bien, c'est pas dur, il écrivait des pornos où il faisait des scénarios de porno assez rigolos, visiblement zoophiles, pervers, etc. Donc on était à la fin des années 60, c'était le plein changement de société.
C'est ça.
Et l'autre, il passait sa propagande à travers des pornos qu'il signait avec comme pseudonyme d'aristocrate. Voilà le genre de personnage qu'on trouve. Dans le genre personnage aussi bizarre de Chéri Bibi, il y a une rubrique western. Alors, rien à voir avec la country, mais il y a l'histoire d'un des pionniers du western, du cinéma de western. Je parle de monsieur Joe Hamam. Alors, Joe Hamam, il s'appelait en fait Joel Hamam. C'était il était d'origine des colonies du Maroc et c'était un Français qui a tourné au début du siècle, vers 1906-1907, les premiers westerns français en Camargue avec des gardiens et qui a fait une revue western en France. Excellent. Voilà, on connaît Buffalo Bill, on ne connaît pas Joe Hamam. Il y a 5 pages sur Joe Hamam et son histoire avec des photos de ses films qui sont faits en Camargue, où il jouait l'Indien, où il jouait le cowboy, tout ça. Lui, il était passionné, il tripait sur l'Arizona, le Colorado, le Texas, tout ça. Et donc, voilà, on ne sait pas qu'en France, en 1906-1907, alors que se tournaient les premiers Fantomas, là, muet, il y avait des mecs, il y avait un type qui s'appelait Joe Hamam qui s'appelait Joel Hamam de son vrai nom, qui faisait des westerns en Camargue.
Voilà.
Le dossier prison, alors pour vous dire, le dossier prison, c'est assez original. Ils vont, ils attaquent d'abord par le polar français, mais le polar de dans le temps, avec des gens comme Ange Bastiani, comme Pierre Vielle-Lessoux, comme André Helena, c'est-à-dire des types, des besogneux, des mecs qui faisaient du polar dans les années 50 et qui, pour certains, avaient connu la zonzon. En particulier des gars comme, comment s'appelle-t-il, nom de Dieu, qui sont reconvertis dans le cinéma. Et pas toujours pour des bonnes raisons d'ailleurs, il y en avait certains qui étaient des anciens collabos.
Je pourrais pas t'aider sur son nom.
Ah merde, oui, il y en a un auquel je pense qui a fait plein de films avec Audiard, puis avec Renoir, etc. Ça y est, son nom m'échappe, mais...
Ça va revenir peut-être plus tard.
Il y avait Auguste Le Breton qui avait fait de la tôle, ça c'est sûr. Mais l'autre m'échappe là présentement. Et donc, ils sont partis sur le polar français d'après-guerre avec ses truands écrivains et donc la description de la tôle à l'époque. Ensuite, il y a un entretien croisé avec deux écrivains qui ont ô combien connu de la prison. Un pour 17 ans et l'autre pour 26. Puisque l'un, c'est Abdelhafed... Enfin, on va dire Hafed, parce qu'Abdel, ça veut dire serviteur 2, et lui, il n'aimait pas qu'on l'appelle serviteur 2. Donc, avec Hafed Ben Othman, qui est mort il y a 3 semaines, qui était un des fondateurs de l'Envolée, et qui a écrit aussi un paquet de bouquins qui sont très, très, très durs et pagués. Mais en tout cas, s'il n'y en a que deux à vous conseiller, moi, je vous conseille Les Forcenés ou Éboueur pour l'échafaud. Et l'autre, c'est Jean-Marc Rouillan, d'Action Directe, donc, qui a passé 26 ans. Et donc, c'est un entretien avec ces deux-là. Il y a également un long article sur la littérature populaire, sur les bagnes, mais sur les bagnes pour enfants, pour les maisons de correction, tout ça. Il y a également tout un article sur Karel Chessman. Alors, Karel Chessman, ça dit peut-être plus rien de nos jours, mais il avait écrit Cellule 2455, Couloir de la mort. C'était un truand nord-américain qui avait été condamné à mort, qui n'a pas été exécuté, mais qui a écrit un bouquin qui a eu un retentissement pas possible. Ça a été le premier à raconter sa vie dans le couloir de la mort, quoi. Voilà. Il y a un article sur la chanson Cayenne qui a été reprise par Parabellum, qui était une vieille chanson populaire qui parlait quand même d'un Mac, mais qui est de la police. Il y a un article sur le blues des pénitenciers.
Excellent.
Enfin, on voit tout ça. Ils abordent la zonzon, mais par le biais, toujours pareil, de la contre-culture, de la culture populaire.
C'est pas mal, parce que du coup, ça fait un point de vue bien...
Ah ben, on y apprend pas mal de choses. Effectivement.
Ouais, ok.
Voilà,
excellent.
Sinon il y a des rubriques habituelles de musique, de bouquins, de fanzines. Je crois que j'ai à peu près fait le tour du numéro 9 de Chéri Bibi.
Ouais, donc Chéri Bibi, comment ça, on peut peut-être les plaît pour les gens qui sont à la radio.
Ah oh, ben comme ça se prononce, Chéri comme Chéri et Bibi comme Bibi Fricotin.
Ça marche.
Voilà, c'est le numéro 9, spécial police dans notre prison, avec interview de Gainsbourg, une interview de Biafra, une interview de Don Pen. Bon, on peut peut-être s'écouter Don Pen pour faire une pause.
Eh ben ouais, c'est parti, Don Pen, No, c'est son gros hit quoi.
C'est
du coup,
le tube, voilà, de la ouais, dame.
C'est ça, qui a été enregistré en 61 quand même quoi.
Yes.
Allez, on écoute ça. Ouais, voilà, donc Down Pen, No, et d'ailleurs, ça me rappelle que c'était aussi, ça a été repris de nombreuses fois,
oula, ouais.
Mais ça a été aussi repris par Holly Cook, là, une anglaise qui avait fait un album il y a 2-3 ans, et Holly Cook, c'est la fille, en fait, du batteur des Sex Pistols, James Cook, donc du coup, tout ça, c'est lié, tu vois.
Musique punk et reggae.
Voilà, c'est ça, punk, reggae, musique jamaïcaine, anglaise, normal.
Yes, et voilà, donc il y a une interview de la dame dans le dernier chez Bibi, elle est sympa, elle est vraiment très
elle a l'air sympa,
Don Pen.
Ouais,
bah ouais, c'est pas le cas de tous les reggae bands ou de tous les reggae women, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ouais. Elle, c'est vraiment une brave fille.
Ouais, non, non, mais si, si, il y, y a de l'esprit aussi derrière, derrière cette musique, quoi. C'est clair et net, c'est pas pour rien aussi, quoi, qu'elle est née depuis les, dans les ghettos, et, etc. Quoi,
et voilà. Puis, il n'y avait pas beaucoup de chanteuses, enfin, il n'y avait pas beaucoup de nanas qui se mettaient sur le devant de la scène en Jamaïque au moment où elle est partie, donc...
Ouais, elle a dû faire face à pas mal de sexisme, sûrement, dans les années 70.
Elle en parle, elle en parle.
Donc, mais, à retrouver dans Chéri Bibi, là,
mais elle est pas... Voilà, elle est tout à fait taillée pour se défendre.
Ouais, c'est ça. Ok, bah, on va parler du coup d'un, d'un livre, là, qui est au kiosque, là.
Qui est paru cette année. Ouais. Qui se trouve au kiosque. Alors c'est un livre donc d'édition Anacarsis qui sont des éditions toulousaines. Alors Anacarsis c'est une drôle de maison d'édition. Ils ont un certain succès et il faut le faire. Ils publient alors ils ont une petite partie littérature. En particulier en ce moment ils publient un écrivain italien dont le nom m'échappe, bravo, mais qui est un ouvrier. Il est ouvrier en Norvège, donc il se caille.
Okay.
Et, et comme il peut pas sortir vu le froid qu'il fait, il écrit. Et il écrit dans une langue complètement délirante.
En italien du coup.
Est-ce qu'on peut appeler ça de l'italien? Il tord l'italien dans tous les sens. Ça fait partie. Il a publié deux bouquins où il raconte ses expériences d'ouvrier à Oslo et un autre où qui est un roman. Ça se passe à la fin de la guerre en Italie et il y a une ville où les nazis sont partis et tout le monde attend la sociale quoi, qui va se mettre en place. Normal. C'est sûr. L'armée rouge qui va arriver. Ouais, c'est pas l'armée rouge qui arrive évidemment.
Et donc du coup cette maison d'édition là,
il publie ça, il publie des sagas islandaises pas mal, il publie pas mal d'auteurs méconnus, ils ont toute une partie histoire et alors ils ont toute une collection d'histoires sur l'histoire des États-Unis. Mais attention, côté indien. Là aussi. En particulier, il y a deux bouquins, il y en a un qui s'appelle le Middle Ground et l'autre s'appelle alors le Middle Ground, c'est un énorme pavé qui raconte l'histoire de sociétés franco-indiennes qui se sont créées en particulier avec des trappeurs. Les Français ayant perdu toute une partie du Canada et des États-Unis, ils se sont mélangés les Indiens. Il y a un autre qui s'appelle l'Empire Comanche, qui raconte, alors il n'y a pas eu d'Empire Comanche, mais comment les Comanches avaient étendu un réseau sur un territoire énorme de plusieurs milliers de kilomètres carrés, en commerçant avec les Mexicains, les États-Unis, en faisant la guerre à ceci, cela, etc., avec les uns et les autres. Et là, dans cette même collection, il y a un livre qui s'appelle « Des ombres à l'aube ». Alors pourquoi des ombres à l'aube? Parce que c'est à l'aube qu'on attaque. Et c'est l'histoire d'un massacre d'Apache et une réflexion sur la violence de la société américaine depuis ses débuts. Ça se passe en 1871. En 1871, il y a dans un canyon en Arizona, un canyon qui est à quelques kilomètres de Tucson, qui s'appelle le canyon d'Aravaipa. Dans le canyon d'Aravaipa, il y a 171 Apaches qui sont massacrés. Et qui sont massacrés pas par la cavalerie américaine, au contraire, par des civils et par une alliance de civils qui vont s'arranger pour bousiller ce campement Apache, hommes, femmes, enfants. Et alors l'auteur Carl Jacobi, qui est un écrivain et qui est allé, il a choisi de raconter l'histoire de quatre points de vue différents. Son bouquin est en trois parties. Alors, quatre points de vue, trois parties. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je m'explique. La première partie, c'est ce qui conduit au massacre, vu par l'histoire des quatre peuples qui sont concernés. Ça commence par les Odams. Les Odams, c'est comme ça qu'eux s'appellent, c'est pas comme ça qu'on les appelle, comme souvent les indigènes, on les appelle les Indiens Papagos, ou les Indiens Pima, ça dépend. Et donc ils racontent toute l'histoire de ces Indiens Pima, qui ont historiquement toujours été en guerre contre les Apaches, depuis des siècles, et qui sont plutôt des agriculteurs, et qui sont, comment dire, et là moi j'ai appris plein de choses, ils remontent, ils parlent des légendes de ces gens-là, de qui ils sont, et ils étaient dans ce massacre d'Apache, c'est eux qui fournissaient la piétaille en bas du canyon pour tuer les Apaches, et les Odams donc sont des ennemis traditionnels des Apaches, les Odams par exemple j'ai appris qu'en 1680, quand les premiers missionnaires se sont pointés dans cette région, de ce qui n'était pas encore l'Arizona, mais qui s'appelait le Sonora, parce que ça appartenait au Mexique, ils sont tombés sur des Odams qui parlaient un peu espagnol, qui avaient des croix et qui faisaient Alléluia, Alléluia en les attendant. Alors là, alors qu'ils n'avaient jamais vu un blanc.
Ils ont halluciné, quoi.
Ouais. Les missionnaires, ils ont cru un miracle, mais pas du tout. Les conquistadors ont débarqué en 1520 au Mexique. Ils sont arrivés dans la région nord, là-bas, en 1680. Vous comptez, ça fait 160 ans de distance.
Ouais.
En 160 ans, il y avait des commerçants, tout ça. Les gens, à des milliers de kilomètres de là, étaient parfaitement au courant de ce qui se passait, avaient des notions, avaient même déjà pris toutes les maladies qui avaient été importées par les Blancs avant même de rencontrer les Blancs. Donc, quand les missionnaires sont pointés, ils en ont fait des guérisseurs. Et il faut dire que les Odams ont une particularité, si le guérisseur ne marche pas, il le tue. Voilà. Donc ça a occasionné quelques frictions, on va dire, entre les missionnaires et ces indiens-là. Donc la première partie, c'est ça. C'est la première sur les Odams. La deuxième, sur ce qu'il appelle les Vecinos. ce qui veut dire les habitants, parce qu'on ne sait pas comment les appeler. Au début, ces régions-là, enfin au début, il y avait donc des indigènes, des autochtones, puis il y a eu des Mexicains. Mm-hmm. Enfin, il y a eu des Espagnols, puis l'indépendance du Mexique en 1820, et donc une société mexicaine, mais alors c'était vraiment le fond du Mexique, c'était là-haut, tout au nord. Et donc il n'y avait pratiquement pas de soldats, et c'était des guerres indiennes incessantes, et en même temps, il y avait moyen de passer des accords les uns les autres. Et puis en 1848, les États-Unis envahissent le Mexique et piquent la moitié du territoire. Et là, la frontière se trouve passée juste à l'endroit d'où on parle, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et alors là, moi aussi, j'ai appris plein de choses. Alors j'ai appris, par exemple, il y a des témoignages, il y a des gars qui ont tout d'un coup la frontière, et il y a des géomètres qui arrivent, qui mettent des bornes et disent c'est la frontière, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est au milieu de mon champ. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le gars, il ne va pas déplacer son champ. Dès que les géomètres ont de tourner, il prend les bornes et il va les mettre à l'autre bout de son champ. Et voilà comment la frontière a bougé. C'était... Alors, on a l'idée d'un affrontement terrible entre le Mexique et les États-Unis, mais non, même pour les États-Unis, c'était un peu loin tout ça. Donc, Tucson, Arizona, qui était anciennement Tucson, Sonora, c'est 6 ans après que ce soit aux États-Unis, il y avait encore des soldats, une garnison mexicaine qui était là dans Tucson, et c'est 6 ans après que les premiers soldats américains arrivent et changent de drapeau, et voilà quoi, remplacent les autres. Donc en fait, ça n'a pas tellement changé. Il étudie toute l'histoire de cette colonie mexicaine, dans laquelle il y a des gens qui sont effectivement eux aussi en guerre permanente contre les Apaches, et dans lequel il y a en particulier des gens qui sont des pisteurs, qui vont être engagés par l'armée, qui sont même des chasseurs d'Apaches, y compris chez certains éleveurs. Le troisième protagoniste, c'est les Américains, donc qui arrivent, mais qui arrivent surtout, alors qui n'hésitent pas à commercer avec les Apaches au début, à l'époque où c'est mexicain, alors vendent de l'agneau, des armes, etc. Et puis qui, quand ils vont récupérer le pays, vont se retrouver avec ce problème-là. Et donc, comment ils vont gérer ce problème de bandes d'Indiens incessantes, avec des conflits incessants, ben, ils vont construire des forts. Et alors ce que j'apprends là aussi dans ce bouquin que je ne savais pas vraiment, c'est un chouette truc sur toute l'image du western, elle n'est plus là, c'est que qui sont les immigrants américains qui arrivent et qui sont entièrement en minorité je veux dire par rapport aux Mexicains à la base, ouais. Bah, c'est des mecs qui déboulent au début, donc ils épousent des Mexicaines. Et c'est forcément les seules femmes disponibles sur le marché. En général d'ailleurs c'est des femmes qui ont 20-30 ans de moins que eux, et qui elles-mêmes s'élèvent socialement grâce à ça. Et... Après, il y a une guerre de sécession, donc cette région d'Arizona est occupée par les sudistes, puis par les nordistes, etc., devant à peu près indifférence de la plupart des habitants, surtout les Mexicains, qui n'ont à peu près rien à faire de ce qui se passe là. Eux, ils continuent à faire de la contrebande avec le Mexique. Des Indiens aux dames, donc qui n'en ont rien à foutre non plus, des Apaches qui attaquent tout le monde, ou pas, ça dépend, ouais, je vais y arriver. Et finalement, après la guerre de sécession, le président Grant dit « bon, il faut pacifier la région ». Donc, il pousse à l'établissement de ce qu'on va appeler des réserves, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, oui, il veut mettre des réserves indiennes, c'est-à-dire dire, bon, ben là, on met l'armée, et là, on garantit aux Indiens qu'ils seront peinards, qu'ils auront des terres, qu'ils pourront cultiver, mais ils ne bougent pas de là. Donc, évidemment, il n'y a plus de terrain de chasse, on leur laisse les pires terres possibles.
On tue tous les bisons aussi
Ouais, encore que là c'est des endroits désertiques, c'est pas okay. Les plaines. Hein, Là, les gens, ils vivent plutôt de cactus, quoi, un peu de maïs. Donc il y a des problèmes avec les réserves. Et l'histoire de ce massacre, elle commence comme ça. Il y a un lieutenant qui a un fort. Alors lui, il doit avoir 40 soldats sous ses... C'est vraiment le petit fort.
Petit, ouais.
Et là, il y a une bande d'Apaches qui arrive et qui dit, ben, nous, on en a marre de la guerre, on se pose là. Et paf, il se pose là. Et le lieutenant prend sur lui de dire, ben, écoutez, moi, je vous fournis un peu à bouffer, des couvertures, tout ça, puisque vous... Et puis, de fait, il se retrouve avec une réserve qu'il crée à côté de son fort, mais sans avoir demandé autorisation à personne ni rien. Donc, il envoie des rapports à ses supérieurs. Il faut 3 jours de courrier pour que les cavaliers aillent forcément jusqu'au général, qui répond « Vous n'avez pas suivi la procédure. » Donc, l'autre, avec des ordres pareils, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il continue à faire sa réserve. Il dit donc à ses Apaches « Écoutez, allez vous installer plutôt à 2 pas au canyon d'Aravaipa. Vous serez peinards, il y a une belle rivière, c'est un lieu sacré pour vous, etc. » Et donc, c'est des Apaches qui viennent de faire la paix, qui s'installent dans le canyon d'Aravaipa et qui vont être exterminés par une coalition de citoyens américains de Tucson, de citoyens mexicains de Tucson et d'Indiens Pima qui vont les surprendre et les massacrer. Alors qu'ils venaient de faire la paix avec l'armée américaine. Et cet événement, là, ce massacre d'Arizona, ça, c'est tellement exceptionnel que ça va donner lieu à un procès. Il y a 140 personnes qui vont passer un procès après à cause de ce...
Ça, c'est assez exceptionnel quand même.
Et oui, parce qu'on considère que c'est une attaque contre l'armée américaine. Les Indiens étaient sous protection de l'armée américaine, okay, on les extermine, l'État fédéral américain ne peut pas laisser passer ça. Donc il y a un procès, et alors je te rassure, tout le monde sera acquitté. Voilà, j'ai vu la fin du procès.
C'est rassurant.
Alors, et voilà, et donc il y a la quatrième partie, des quatrième protagonistes, c'est les Apaches. Donc eux-mêmes ne s'appellent pas des Apaches, eux, ils s'appellent soit des Chiricahua, soit des Niais. Mmh. Et donc là, c'est les Apaches Niais. Et donc, il est dit comment, effectivement, qu'est-ce que c'est que cette suite de conflits qu'il y a. Alors, des conflits avec les Papagos, enfin, avec les Odams, c'est historique, mais avec les Mexicains et les Américains, ben, ça dépend. Ils passaient des paix séparées. Et les Apaches, c'est pas un peuple avec centralisé, avec il n'y a pas de gouvernement. Donc, un tel fait la paix, ok. Moi, de tel village, je fais la paix, mais ça ne veut pas dire que les autres du village sont d'accord pour faire la paix. Mmh. Donc, y avait des imbroglios comme ça, et ce n'est pas les Américains, les Mexicains peut-être un peu mieux parce qu'ils se fréquentaient depuis plus longtemps, qui allaient reconnaître quel était un des Apaches qui avait fait la paix, d'un des Apaches qui n'avait pas fait la paix. Et le massacre d'Arvaipa, ils vont le justifier après coup en parlant de raid Apache, en parlant d'une femme qui avait été enlevée, d'une femme blanche qui avait été enlevée. Alors, on apprendra par la suite que... Alors, c'est marrant parce qu'il c'est au moment du procès que tout ça sort.
Mais oui, mais de toute façon, ils font toujours ce genre de truc. Les Ricains, pareil, avec Scottsboro, là, les gars de Scottsboro, je ne sais pas si ça te parle, mais c'était l'histoire de Cyrenois qui avait été accusé de viol dans un train, tu vois. Ouais. Et pareil, même chose, quoi. Bon, bah, ils ont pas grand-chose. Bon, bah, on va leur mettre un viol ou un enlèvement ou quelque chose d'une femme.
Sauf que
comme
là,
ça.
Le viol, il est arrivé bien après l'attaque du canyon. De toute façon, personne n'était au courant avant l'attaque du canyon. Donc c'est faux.
Oui, mais c'est complètement à chaque fois.
Pareil,
c'est
des vols de bétail. Hein. Et ils ont exterminé une bande d'Apaches qui venait justement de signer, enfin ils n'avaient pas signé, mais de se déclarer en paix et qui était sous protection de l'armée américaine. Voilà. Donc c'est toute cette histoire qui est racontée, vue de la part de quatre protagonistes, donc des Odams, des Mexicains, des Américains et des Apaches. La deuxième partie, c'est le procès. C'est une partie assez courte qui dit ben voilà comment ils ont été acquittés. Ben forcément, ils ont été jugés à Tucson par un jury de Tucson, donc entre eux, quoi. Et ensuite, c'est la mémoire. Quelle est la mémoire que va donner ce massacre? Pareil, on reprend les quatre parties de la population.
D'accord. Ouais.
Donc les deux peuples indigènes et les deux peuples, on va dire, occupants. Et on voit comment ça se perpétue. Et comment ça ne va pas porter chance ni aux Odams, ni aux Mexicains, qui petit à petit vont être de plus en plus marginalisés. Y compris les Indiens Pima. Donc les Odams vont dire, putain, si on avait été comme les Apaches, peut-être on aurait été mieux traités. On aurait dû plutôt résister que de s'allier avec ces gens-là. Sachant qu'entre-temps, suite à ce massacre, les Odams et les Apaches vont signer une paix et vont se retrouver peuple mélangé, alors que ça fait des siècles qu'ils se font la guerre. Et que cet événement va être aussi assez traumatique dans la mémoire collective des Niais, quoi, des Apaches. Et donc, il va falloir attendre, parce que les signes du massacre des établissements, ça n'existe plus. On a construit un barrage par là-dessus, on a foutu un terrain de golf, en veux-tu, un terrain de golf en Arizona. Je vous signale qu'on est en plein désert, et que donc, il faut arroser ça, d'où il faut mettre un barrage pour arroser.
Après, on s'étonne pourquoi les rivières n'arrivent pas jusqu'à l'océan. Quoi,
on s'étonne pourquoi les Indiens crèvent de faim, parce que leur maïs ne pousse plus. Voilà, quoi. Et là, ça se termine sur l'établissement d'un centre culturel Apache, qui est un ancien bistrot, ouais, qui est, vous voyez, les bistrots le long des routes américaines, là, un truc, dans lequel, pour la première fois, plusieurs peuples niais, plusieurs clans, on va dire, niais, se groupent pour raconter cette histoire à leur manière. Mais là, on est dans les années 2000. Voilà, ça ressurgit de cette manière-là. Excellent. Donc voilà, le gars parle, Carl Jacobi, l'auteur, il
et
parle...
Et lui, Carl Jacobi, lui, il est quoi dans cette histoire? Comment il en est arrivé à parler de ça, tu sais,
il est professeur à l'Université de Columbia, et c'est un mec qui a toujours fréquenté cette région de l'Arizona depuis qu'il est tout gosse.
Ok.
Qui a des parents qui sont des Chicanos.
Ok.
Donc est issu de la minorité, enfin de minorité mon œil, de la communauté mexicaine, voilà, hispano-américaine comme on dit de nos jours, et qui a recueilli petit à petit des légendes, et donc qui est allé regarder tous les journaux de l'époque, les récits de l'époque, les querelles,
les histoires, quoi, enfin
les querelles qu'on fait ce massacre aussi, parce qu'il y a toute une partie de l'opinion de l'Est libérale américaine qui dit mais attends, mais faut arrêter de massacrer les Indiens comme ça va plus du tout, alors que les gars sur place d'Arizona disent mais attendez, ils ont qu'à venir se faire piquer leur truc par les Indiens sans arrêt, on verra comment ils réagiront, ces crétins de l'Est, etc. Enfin, pas du tout l'image du traditionnel du western qu'on a, quoi. Et d'ailleurs c'est autour aussi de ce massacre que vont se filmer les premiers westerns, pareil dans les années 10. On va reconstruire un Tucson à l'ancienne, et c'est ce décor qui va servir jusqu'au film de Clint Eastwood de ces dernières années. Voilà, tout ça est raconté donc dans ce bouquin de Carl Jacobi qui s'appelle Des ombres à l'aube, et qui raconte de quatre points de vue différents comment la violence est une règle de l'histoire des États-Unis. Est une constante. Voilà, c'est okay. ça le mot que je cherchais. C'est assez passionnant. Moi, ça m'a appris plein de choses sur la société des États-Unis, mais aussi surtout sur la société d'Arizona, qui s'appelait avant Sonora et qui est vu à travers trois points de vue différents.
Ok, et j'en profite pour faire un petit pont aussi, puisqu'on en a parlé mercredi dernier, dans l'émission Lu et Approuvé, une émission de lecture là, le soir, 23h30, où on a lu un extrait du bouquin de Joe Sacco, un journaliste américain il fait des BD, il va un peu en Palestine, il va un petit peu à droite à gauche, et là il revenait avec Chris Hedge dans un bouquin qui s'appelle Jour de destruction, jour de révolte. Chris Hedge, lui, c'est un journaliste qui écrit plutôt. Joe Sacco, il fait des BD. Et donc là, on avait lu un extrait de la première partie qui est consacrée justement à l'histoire plus contemporaine, en tout cas, mais avec les mêmes problématiques des natifs américains, quoi, des Indiens américains, qui aujourd'hui sont plus du tout dans ces problématiques-là, mais plutôt dans des problématiques, d'alcool, sociale, de chômage, de social. Et donc, il revient là-dessus. Et tout le bouquin, en tout cas, traite un petit peu du côté sombre des États-Unis avec le chômage, la misère sociale, l'exploitation des terres, après sur toute l'histoire aussi de ségrégation, tous ces trucs là sur les States. C'est un bouquin qui est assez conséquent aussi, mais qui est pas mal, qui est intéressant, après un peu plus grand public, en tout cas plus distribué et un peu plus connu, mais qui est pas dénué d'intérêt.
Ah ouais, juste une dernière précision sur le bouquin de Jacobi. Ce bouquin a gagné l'an dernier le prix du meilleur livre d'histoire aux rencontres du livre d'histoire de Blois. Tous les ans à Blois, il y a des rencontres autour de livres au sujet de l'histoire, et c'est celui-là qui a été choisi par un jury de lecteurs.
On peut peut-être rappeler le titre là ?
Ça s'appelle « Des ombres à l'aube sous-titré « Un massacre d'Apache et la violence de l'histoire », et c'est de Carl Jacobi aux éditions Toulousaine en Acarsis. C'est traduit par Frédéric Cotton, c'est bien de citer les traducteurs aussi.
Ouais, c'est clair.
Et voilà, pour terminer, je redis deux mots du programme du mois.
Ouais, ça marche, ouais, ça roule, on va finir avec ça.
Donc, 3 rue Escoussière, Arnaud Bernard, ouvert tous les lundis et les vendredis de 17 à 20h, lundi 23 mars à 20h30, rencontre et discussion autour de la revue Z qui se pose à Toulouse et qui donc va présenter sa démarche publiquement et attend vos idées, vos suggestions, vos remarques. Lundi 6 avril à 20h30, Gazi to Gazi, donc Stone's Throw Away, le film de Rose Domonet, en présence de Rose Domonet, sur les événements, la révolte du parc Gezi à Istanbul il y a 2 ans. Et le lundi 20 avril à 20h30, ça sera présentation du guide d'autodéfense numérique édité chez Time Party. Tout ce que vous voulez savoir sur votre vie numérique et comment se protéger de Big Brother.
C'est ça. On écoute un petit son, Djello Biafra, là,
qui est interviewé dans Chéri Bibi. Bibi. Ouais, c'est avec l'école de médecine de Guantanamo.
On écoute ça et puis on conclut le magazine juste après.
Merci. We devour.
war, greed, corruption, bigotry, roar, greed, corruption, bigotry, war, and don't forget pollution. The world is our Chernobyl, your taxes are casino. Forget about your hope and change. Only public caution, we allow the peasants is pay.
That old cliche, but
we got class war in this country!